Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour. At the happy hour.
At the happy hour. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure, nous voilà de nouveau partis pour une heure d'émission Happy Hour. Il tirait la sonnette d'alarme en cette rentrée 2023 face à ces difficultés financières qui s'accroissent pour celles et ceux à qui ils viennent en aide, mais aussi pour eux-mêmes. Ils, ce sont les Restos du Cœur qui ont entamé la semaine dernière une 39e campagne, contraints pour la première fois de leur histoire à devoir refuser du monde. Les Restos et puis les autres aussi, ces associations caritatives qui alertent sur la précarité en cette année 2023 donc, mais n'était-ce pas déjà aussi le cas en 2022 et puis en 2021 ou encore en 2020, la fameuse année Covid. Je pourrais même, je crois, remonter encore dans le temps, mais je l'ai dit, on a une heure et puis ceci n'est qu'une introduction, manière, si l'on peut dire, de planter le décor. Je me contenterai alors de citer ce dernier chiffrage que l'on doit au réseau des banques alimentaires qui est le premier réseau d'aide alimentaire en France, lequel faisait état dans un rapport publié en février dernier que le nombre de bénéficiaires avait triplé ces 10 dernières années en France, passant de 820 000 personnes accueillies en 2011 à 2,4 millions en 2022. Un bien sombre tableau donc, mais heureusement un beau plateau quand même aujourd'hui, qui je l'espère sera aussi amené à esquisser quelques solutions. On a choisi de réunir aujourd'hui deux de ces associations caritatives qui agissent en Lozère, Jean-Pierre Kircher, Laurent Bragé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Kircher, vous êtes le secrétaire général du Secours populaire de Lozère et quant à vous, Laurent Bragé, président de la société Saint-Vincent de Paul. Éric Béranger, est-ce que vous êtes là ?
Ouais, carrément.
Oui, bonjour les gens.
Salut à tous les deux. Alors, je crois que toi, Éric, tu vas tenter quelque chose aujourd'hui d'assez particulier.
Oui, je vais essayer de rapprocher notre sujet de la dernière émission avec le sujet d'aujourd'hui.
Voilà, sujet de dernière émission qui est abordé les cafés mortels. Que de sujets joyeux, hein, dis donc.
Oui.
Et quant à toi, Béranger, il est aussi question de temps qui passe, je crois.
Ouais, c'est ça. Et je vais parler du fameux coup de vieux. Vous savez, quand vous croisez quelqu'un qui vous dit que vous aviez vieilli.
Ok, boomer.
Ouais.
Personne d'autre a connu ce sujet sur autour de la table.
Il n'y a que moi.
Il n'y a que toi. Jean-Pierre Kircher, Laurent Bragé, on l'a dit, hein, une hausse inédite cette année pour les Restos du Cœur, qui l'ont fait savoir à plusieurs reprises depuis septembre. Qu'en est-il pour vos deux associations au niveau local, j'entends bien. Laurent Bragé.
En fait, on a une augmentation des bénéficiaires d'une année sur l'autre, ça c'est un fait. Mais le plus difficile à encaisser, c'est l'augmentation du coût des denrées alimentaires. En gros, les bénéficiaires, on a 20% de plus en 2023 par rapport à 2022. Mais les achats de denrées, c'est 30% de plus en coût. Donc, pour le moment, on s'en sort. On y arrive toujours. Et de toute façon, l'idée, c'est pas de refuser des gens, mais c'est d'accepter le plus possible et de voir un peu l'état des lieux, des foyers, les difficultés qu'ils ont, etc., pour ensuite faire remonter auprès des pouvoirs publics les besoins qui sont les nôtres pour assumer ce qui reste une mission de service public confiée à des associations caritatives et réalisée pour le coup, pour pas cher, puisque subventionner une association caritative qui fonctionne avec des bénévoles, c'est quand même moins cher que de mettre en place un service public assumé directement par des collectivités, des pouvoirs publics.
On va revenir un peu sur cet aspect-là, un peu plus à la fin de l'émission. D'abord, je propose de faire un petit état des lieux encore chez vous, Jean-Pierre Kircher, en Lozère, hein, toujours au Secours populaire. Pareil, est-ce qu'il y a eu une hausse inédite cette année ou pas du nombre de bénéficiaires ?
Non, le constat que l'on fait, c'est ce que vous disiez, c'est qu'au fil des années, effectivement, on ne voit pas la pauvreté reculer, y compris dans le département, et que sur 2023, on a à peu près entre 10 et 20% d'augmentation donc des personnes accueillies dans nos différentes antennes. Alors il y a effectivement le coût lié à l'inflation avec l'augmentation des denrées qui sont de plus en plus inaccessibles pour certains foyers. Et puis le coût de l'énergie, le carburant. Donc là, on assiste, en ce qui nous concerne, à l'arrivée dans nos permanences de catégories sociales qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui, petit à petit, finissent par sombrer dans la précarité. Mmh. Et notamment, les plus pauvres, eux, sombrent dans une extrême pauvreté. Voilà, ça donc voilà, ça s'aggrave au fil des années et on ne voit pas, là, pour l'instant, la lumière au bout du tunnel. Mmh.
40 ans d'existence pour le Secours populaire en Lozère, bientôt 41, ce sera le 12 décembre, c'est bien ça ?
C'est ça.
Pour la société Saint-Vincent de Paul, donc c'est depuis 1839, comme vous me le disiez. Vous êtes présent qu'à Mende à ce jour ?
Et il y a une conférence sur Mende, oui.
D'accord.
Et l'aide alimentaire sous forme participative, c'est-à-dire épicerie solidaire, existe, elle, depuis bientôt 9 ans.
Voilà, c'était en 2015. Donc, vous l'avez dit tous les deux, la précarité qui gagne du terrain d'année en année. Est-ce que ça a vraiment toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a une année peut-être où il y a eu le nombre des bénéficiaires a diminué ou vous n'avez jamais connu ça, vous ? Non.
Pas encore.
Pas encore.
Non. Ouais. Non, non, non. Non, non, ça serait effectivement l'idéal. Mmh. Que l'on puisse travailler à notre disparition. Ça serait reconnaître que la pauvreté recule et qu'effectivement les pouvoirs publics font ce qu'il convient pour justement mieux accompagner toutes ces personnes. Pour nous, on est partisans d'un accueil inconditionnel. Autrement dit, on évite que des personnes restent au bord du chemin. On essaye toujours de trouver des solutions et de mettre en place l'accompagnement de ces personnes qui parfois sont dans des situations d'isolement, se retrouvent à avoir des difficultés à se loger, à payer l'électricité. Donc voilà, c'est sûr que pour l'instant, nous, on voit pas, malheureusement, le nombre de personnes accueillies diminuer dans nos différentes antennes.
Mmh. On a beaucoup fait état pendant le Covid, donc en 2020, qu'il y avait une hausse hein, de cette précarité, mais on l'a dit en introduction, elle date depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui ne va pas ? En plus de l'inflation, comment on peut l'expliquer, en fait, cette aggravation de la pauvreté ? Ou du moins à vos yeux ? Laurent Braget.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que la crise sanitaire liée au Covid, elle a impacté le bénévolat. Donc on a moins de bénévoles que ce qu'on avait, et c'est la première richesse d'une association caritative. Après, évidemment, il faut des dons pour fonctionner, mais si vous n'avez personne pour vous aider, ça ne marche pas. Les gens, il y a quelque chose qui s'est passé avec le Covid. Ils ont changé ce qui était superflu et les plus, enfin voilà, il y a l'essentiel, ils vont vraiment, enfin, ils ont changé leur état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Derrière, il y a eu une crise économique liée à la situation internationale, des coûts de l'énergie qui ont augmenté, enfin, tout un tas de choses qui font que, ben, au final, pour voir le bon côté des choses, c'est plus compliqué qu'avant. Mmh. Et donc, des foyers qui se sont institués maintenant dans une forme de pauvreté dans laquelle ils ont du mal à sortir. Et qui est difficile à essayer d'endiguer. Et puis les jeunes, ils ont été très impactés avec le Covid, puisqu'ils ont perdu les petits boulots, puisque les restos étaient fermés, etc., ce genre de choses-là. Ils ont eu du mal à s'y retrouver après. Ils ont toujours du mal. Nous, plus de la moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans. Donc ça a toujours existé, mais c'est encore plus prégnant qu'avant, en fait. Ouais. C'est vraiment plus qu'avant. Et maintenant, on a des foyers qui n'auraient jamais fait une demande d'accès à l'épicerie, qui demandent maintenant. Et pourtant, c'est monsieur, madame, avec des enfants et deux salaires.
Ouais, c'est ça,
et
c'est
pourtant, ça coince quand même. Mmh. Ça coince parce que les charges ont augmenté bien plus vite que les salaires et que maintenant, ça ne marche plus. Quoi.
Mmh. Eric ?
Mais non, c'est un peu ce que je voulais vous demander. C'est les personnes viennent vous voir directement ou... Ou c'est vous qui entendez parler de quelqu'un qui peut être en difficulté, vous allez l'aider? Ou comment ça se passe? C'est vraiment eux qui viennent toquer à la porte, entre guillemets? Ou il y a des réseaux et ça marche par réseau?
Ben en fait, il y a des gens qui connaissent l'épicerie par le biais d'autres personnes qui y ont accès. Il y a celles qui passent devant et qui se demandent comment ils peuvent en bénéficier. Et puis surtout, il y a toutes les personnes qui vont voir les travailleurs sociaux des différents organismes instructeurs pour accéder à l'épicerie, que ce soit la maison de solidarité du département, la mission locale, l'UDAF, etc., etc., la traverse, il y a aussi, ou le centre intercommunal d'action sociale. Donc tous font remonter les situations et en commission, on décide ou pas de l'accès à l'épicerie. En général, on refuse pas les accès. C'est juste qu'on détermine le crédit d'épicerie auquel ils vont pouvoir avoir accès pour pouvoir dépenser au niveau de l'épicerie à 10% du prix, ce qui, vu le coût des denrées alimentaires, n'est pas négligeable aujourd'hui.
Est-ce que...
Alors, oui, je voulais juste revenir sur la première question, c'est que, en fait, nous, on a un concept au niveau de notre association qui fait qu'on agit sur les conséquences, mais pas sur les causes. Les causes concernent les pouvoirs publics, concernent les politiques, c'est à eux, peut-être, de s'imprégner de ce que nous, on est capable de leur faire remonter, puisqu'au quotidien, on est en contact avec ces personnes qui accumulent donc les difficultés qui sont liées aujourd'hui à une, je dirais, à une organisation sociétale qui demande d'être revue et corrigée. Ça me paraît être le premier niveau. Deuxième niveau de ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas subi de contre-coup lié au Covid en matière de nombre de bénévoles, puisque au niveau local, on a augmenté le nombre de bénévoles et qu'au niveau national, on est passé de 80 000 à 90 000 bénévoles qui interviennent donc dans les différents départements français et outre-mer. Donc voilà, pour l'instant, nous, on mesure qu'effectivement le Covid a laissé des traces. Ça, c'est une évidence. Le confinement a agi sur à la fois l'état d'esprit. On s'est rendu compte que il y avait aussi des gens qui se sont sentis très mal et qui avaient besoin d'être accompagnés. C'est pour ces raisons que nous, on n'a pas fermé nos permanences, on est resté ouvert, on a continué à les accueillir. On a mis les personnes qui étaient les plus fragiles en tant que bénévoles à l'abri pour éviter qu'ils se retrouvent contaminés. Donc voilà, pour nous, effectivement, ça a été un moment un peu singulier, mais qui n'a pas encore trop laissé de traces au sein de nos équipes de bénévoles.
Association. Est-ce que vous diriez que des territoires comme la Lozère, c'est-à-dire ruraux, sont plus touchés par la précarité, ou au contraire, comparé aux grandes villes, comme on peut estimer qu'il y a plus d'entraide, c'est moins prégnant ou en tout cas moins écrasant?
Je dirais que c'est pas la même façon d'intervenir que dans les grandes villes, tout simplement parce que on n'a pas la massification démographique, c'est-à-dire que les gens peuvent être très rapidement stigmatisés. On a fait, nous, des tentatives de solidaribus en allant, par exemple, dans deux vallées autour de Villefort, avec un fourgon, avec un gros logo du Secours Populaire, et chaque fois qu'on s'arrêtait dans un hameau qui contenait quelques familles, mais personne ne venait à notre rencontre. Trop peur que le voisin se rende compte que, finalement, la famille était dans le besoin. Donc, c'est une pauvreté qui est beaucoup plus... Enfin, oui, je pense qu'elle est beaucoup plus cachée, c'est beaucoup plus difficile dans les villes comme Marvejols, Mende. Là, ça passe un peu plus inaperçu, donc les gens viennent plus facilement pousser la porte de la permanence. Mais c'est vrai que ça nous demande, finalement... parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ne sont pas modélisables dans le département. Ça nous amène donc à inventer des dispositifs qui sont beaucoup plus en rapport avec l'hyper-ruralité de notre département.
Quelle évolution des besoins des personnes qui viennent vous voir? Parce qu'on peut peut-être le rappeler, vous ne faites pas que de l'aide alimentaire, vous avez tout un panel d'actions. Est-ce que l'aide alimentaire, c'est le principal besoin qui est exprimé auprès de vous, ou il y a d'autres choses? Vous le disiez tout à l'heure, Laurent Braget, il y a aussi beaucoup de mises en réseau pour des aides sociales, pour de l'accompagnement.
En fait, l'aide alimentaire, c'est un moyen de rencontrer les gens. Et ensuite, on s'aperçoit qu'ils ont d'autres besoins. Et à commencer à trouver quelqu'un qui prête attention à eux, qui les écoute, qui leur permet de partager un moment, parce qu'il y en a, on est les seules personnes à qui vont parler de la journée, voire de la semaine. Mmh. Il y a des personnes, surtout avec la crise sanitaire, qui se sont vraiment repliées sur eux-mêmes et qui ont perdu, pas tout lien social, mais quasiment, quoi. Donc ça, c'est la première chose, en fait. Et après, ça dépend. Nous, on fait de l'accompagnement à la scolarité. On a des ateliers où les gens peuvent partager les savoirs, etc. On fait des visites à domicile. Enfin, voilà, c'est assez diversifié. Et on tente de s'adapter aux besoins des personnes qui passent la porte. Donc, sachant que l'association, elle est en centre-ville, c'est rue Saint-Dominique, et qu'elle est ouverte du lundi au vendredi. On est ouvert à presque 40 heures par semaine. Donc, du coup, il y a tout un tas de personnes qui passent la porte pour un X raisons. Il y en a qui ont des démarches administratives à effectuer. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui... Parce que, bon, par exemple, on peut parler des aides que peuvent avoir les personnes en précarité. Mais les démarches en ligne pour les obtenir, etc., des fois, c'est très compliqué pour eux. Et donc, on a des ordinateurs à disposition pour qu'ils puissent les faire, parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à Internet. Voilà. Et puis, on les aide dans ce cadre-là.
Accompagnement social. Ouais. Chez vous, Jean-Pierre Kircher, c'est principalement de l'aide alimentaire ou pareil, c'est...
L'aide alimentaire, pour nous, c'est la porte d'entrée. Qui nous amène, parce que le Secours Populaire se qualifie comme étant une association de solidarité, mais assez généraliste en matière de solidarité. C'est-à-dire que tout ce que l'on essaye de mettre en œuvre, d'une part, c'est pour lutter contre la cistana, et pour, petit à petit, aller vers l'émancipation des personnes que l'on accueille. Faire en sorte qu'ils s'émancipent, et autrement dit, pour nous, toutes les autres solidarités sont aussi importante que l'alimentaire, notamment tout ce qui est accès aux droits, à la santé, au logement, ensuite la culture, les loisirs, le sport. Pour nous, ce sont des choses qui sont tout aussi importantes que se nourrir, parce que ça participe quelque part aussi de... Et puis bon, il y a une dimension qui est importante, c'est que nous, on invite les personnes que l'on accueille à rejoindre les équipes de bénévoles s'ils le souhaitent. C'est-à-dire que ça leur permet d'une part de tisser du lien social, et d'autre part de recouvrer l'estime de soi, et de se remettre donc en situation de pouvoir agir sur son environnement au travers de ce que nous, on va être capable de leur donner en termes d'accompagnement. Donc c'est pour ces raisons que tout le reste est important. J'aimerais après revenir sur la façon dont l'aide alimentaire existe en France, ce qui nous différencie de l'épicerie solidaire, parce qu'il y a les quatre grosses associations, que sont les Restaurants du Cœur, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge et le Secours Populaire, disposent d'une dotation européenne. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement français, par l'État français.
On va y revenir un peu plus tard sur ce sujet, parce qu'entre-temps, on va faire intervenir aussi la Croix-Rouge, qui fait partie de ces quatre grosses associations, une interview qui a été enregistrée au préalable. Je continue encore un peu, dans le sens, pour faire toujours un peu cet état des lieux, il n'y a pas longtemps, le Secours catholique de Lozère, à la suite de la publication du rapport sur la pauvreté en France du même Secours catholique, faisait état qu'il y avait eu une hausse de besoins sur certains territoires. Il nous parlait notamment de Villefort. Est-ce que vous, au Secours populaire, je ne vous pose pas la question à vous, Laurent Brager, parce que vous êtes que à Mende pour l'instant, est-ce qu'il y a des territoires où vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a plus de demandes qu'avant ?
Je dirais que c'est un peu... Ça évolue de la même façon un peu partout, quoi. On n'a pas un territoire qui prédomine sur les autres. Sur Langogne, on a une forte augmentation aussi. Et ça, on le mesure. Si vous voulez, on a une remontée d'informations de nos antennes vers notre base de données. Et là, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais comme je le disais, on est entre 10 et 20% d'augmentation. Globalement, hein, sur l'ensemble du territoire. Après, ça dépend des autres associations qui sont aussi sur ces territoires.
C'était la suite de ma question. Est-ce que, même d'ailleurs entre vous tous les deux, Secours Populaire et Saint-Vincent-de-Paul, est-ce qu'il y a des... Vous coordonnez, quoi, je sais pas, faire en sorte d'agir de manière complémentaire, ou dire, bon, ben, moi, je suis présent à tel endroit, donc... L'autre va être moins présent. Est-ce que ça fonctionne comme ça ?
Avant de faire une épicerie solidaire, on faisait des colis, comme les autres associations, c'était gratuit. Et puis on s'est aperçu qu'on était plus ou moins en doublon, même si on se partageait les mois de l'année. Donc on a décidé de faire une aide alimentaire participative. C'était une offre qui n'existait pas, qui ne répondait pas forcément au même public. C'est pas forcément pour le même public. On s'est aperçu qu'on n'avait pas le même public. On s'est aperçu aussi que nos colis ne répondaient pas forcément aux besoins. Si on était tributaire de ce qu'on nous donnait. Donc, si on avait du café, ben, on distribuait du café. Et puis, si vous voulez du thé, ben, tant pis, on avait du café. Donc, il le voulait très bien. Il ne le prenait pas, il ne le prenait pas. Mais bon, on était voilà, contraints par ce qu'on pouvait obtenir comme aide alimentaire. Le choix de l'aide alimentaire participative, ça permet d'adapter l'aide fournie à la demande des bénéficiaires, à leurs besoins. Et donc, entre guillemets, essayer de mieux répondre à ce dont ils ont besoin. Ça coûte plus cher, parce que du coup, on achète tout. On n'a pas, droit aux produits, aux fonds européens. Voilà, puisque c'est une aide alimentaire participative. Du coup, on a du CNES, Crédit National des Épiceries Solidaires, dont l'enveloppe tend à augmenter, mais augmente moins vite que le nombre d'épiceries en France. Donc, du coup, le volume d'aide est moindre.
Voilà, l'impact est moins conséquent. On le disait en introduction que les Restos du Cœur étaient contraints cette année, pour la première fois de leur histoire, de refuser du monde. Parce que touchés par la hausse des charges pour leur coût de fonctionnement, vous souriez, vous nous expliquerez peut-être pourquoi, Laurent Bragé. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi, ça, cette hausse des charges qui, du coup, ça, finalement, ces difficultés financières qui se répercutent aussi sur les associations qui viennent en aide pour lutter contre la précarité, vous voyez le serpent de... Voilà. Est-ce que chez vous aussi, quoi, ça s'observe ?
Ah oui. On a effectivement... parce que on a des coûts de fonctionnement et ces coûts de fonctionnement sont impactés par l'inflation, que ce soit l'énergie, les carburants, parce que on a des camions, on se déplace, il faut les livrer, puisqu'on a un dépôt à Marvejols, après il faut livrer les antennes. Donc c'est sûr que les coûts pour nous ont augmenté, ce que l'on a de cesse d'ailleurs que de faire remonter à l'État. On fait remonter à l'État qu'effectivement il y a tel et tel, aujourd'hui il y a difficulté pour les interpeller et voir avec eux comment arriver à rétablir des financements qui ne nous mettent pas en difficulté. Après, bon, voilà, on n'a pas, pour l'instant, on n'est pas menacé, entre guillemets, de déposer le bilan, loin de là.
Oui, je crois même que l'année 2022 était pas trop mauvaise, on va dire, absolument, pour vous. Pourquoi vous souriez, Laurent Bragé, quand on parle des Restos du Cœur qui refont monter au niveau national, qu'ils sont contre, enfin, ils font face à des difficultés ? C'est vis-à-vis des chèques qui ont été livrés après ?
Parce que nous, si on arrive à s'en sortir, c'est parce qu'on mutualise. C'est parce que Saint-Vincent de Paul et Épicerie Solidaire partagent des locaux, limitent les charges, etc. Et que je pense qu'avant de dire qu'on va refuser des gens, il faut essayer peut-être de s'accorder sur les moyens de déployer par chaque association sur tel ou tel secteur. Et que s'il y a une solution qui existe à un endroit, eh bien, il faut se porter sur un endroit où il n'y a personne, quoi. Et donc, il faut essayer de limiter les zones de concurrence, même s'il y a des endroits où il peut y avoir toutes les associations. Il y a tellement de besoins qu'ils ne seront jamais tous satisfaits. Mais bon, je pense qu'il y a une rationalisation à faire sur certains endroits. Ouais.
Est-ce que d'un point de vue local, vous pouvez compter sur le soutien de magasins, hyper, super, institutions avec lesquels vous avez créé des partenariats ?
C'est-à-dire qu'une grande surface, dès qu'elle fait une certaine taille, elle est obligée de contractualiser avec les associations caritatives. Donc c'est le cas par exemple d'Hyper-U, c'est la plus grande, pour laquelle la ramasse est partagée entre les associations qui souhaitent en bénéficier. Et donc, il y a un roulement qui existe. Typiquement, l'épicerie solidaire, comme elle est ouverte toute l'année, tout le temps, les mardis et jeudis, donc nous, on va y aller quand aucune autre association n'est ouverte et n'y va. Voilà. Sinon, quand une autre association est ouverte et qu'elle y va, eh bien, on laisse la ramasse. C'est, l'idée, c'est plus d'éviter le gaspillage alimentaire.
Oui, y a
plutôt
une loi
que
qui a été créée,
de répondre à un besoin, parce que ce qu'on récupère en ramasse, ce n'est pas forcément adapté quand la date n'est pas passée. Et donc, du coup, c'est plutôt pour éviter de jeter. Ouais.
Bien sûr. Ça, pareil, je voulais l'amener un peu plus tard. On va devoir vous lâcher bientôt. C'est malheureusement passé un peu vite. Donc, je parle à vous, Laurent Bringer, je ne le précise pas. Vous disiez que vous allez peut-être développer des activités un peu en Lozère.
Mais en fait, dans le cadre du plan de relance, l'ANDES a obtenu des aides pour créer 300 épiceries de plus en France. Et donc, l'idée, c'est d'en créer une itinérante sur la Lozère. D'accord. Déployée à partir de celle qui existe sur Mende. Donc, on va prendre la route, ouais. Et on va essayer de répondre à un besoin sur des zones non desservies ou moins bien desservies.
Vous en avez déjà ciblé ?
On en a ciblé et il faut qu'on cadre un peu plus les choses avec les travailleurs sociaux sur les secteurs pour voir si les zones ciblées correspondent à une réalité et on verra. Il y a une logistique à mettre en place pour arriver à apporter une aide alimentaire sans que nos coûts s'envolent non plus. Parce que dès qu'on commence à avoir un véhicule avec les charges qui
inhérentes
au véhicule, ça va être compliqué. Mais on va essayer. Normalement, on a avec des appels à projets, obtenu des financements pour pouvoir développer une épicerie itinérante. Ouais.
Très bien. Eric ?
Non, c'était juste a priori. Par contre, il faut faire attention à ne pas mettre un trop gros logo sur le camion.
Ouais. Alors, c'est prévu de ne pas mettre
ça
du tout.
Trop visible.
Voilà. Comme il n'y en a pas sur le local de l'épicerie.
En effet. Peut-être rappeler, avant que vous partiez, où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Donc, c'est 6 rue Saint-Dominique. Et il y a un téléphone 04 66 49 12 16. Voilà.
Très bien. Merci à vous de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Resto du cœur, donc, comme j'en faisais part en introduction, mais il y a aussi la Croix-Rouge hein, qui a fait appel en septembre, qui faisait part d'un déficit financier à hauteur de 40 à 50 millions d'euros en septembre, qui a peut-être été résorbé en partie par certaines aides de ces grandes sociétés ou autres. Je propose qu'on écoute l'interview de Florian Casanova, qui est président, même jeune président dans tous les sens du terme, puisqu'à la fois pour son âge, mais aussi parce que ça fait juste un an qu'il est président à la Croix-Rouge de Lozère, qui nous a accordé une petite interview parce qu'il ne pouvait pas être présent sur place. Alors Florian Casanova, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes le président de la Croix-Rouge française de Lozère, le plus jeune de France d'ailleurs, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Pour rappeler les différentes fonctions de la Croix-Rouge, il y a donc l'action sociale hein, bien sûr, il y a un volet d'aide alimentaire, vestimentaire, vous faites aussi des maraudes. Il y a aussi un volet enseignement français, langue étrangère et secourisme, est-ce que j'en oublie un ? Où c'est tout dit ?
On fait la formation. Également la formation du grand public dans le domaine de l'urgence et du secours.
Ok. Alors, vous êtes implanté depuis combien de temps exactement à la Croix-Rouge française, en Lozère, dans le département ?
Ça se compte en termes de centaines d'années. Ça fait depuis 1889 environ, hein, je n'ai pas la date exacte, mais que la Croix-Rouge française est implantée sur le département à la suite de la création du mouvement international.
Et c'était une des premières antennes, hein, vous me le disiez tout à l'heure.
C'était l'une des premières délégations qui a été créée. Ce n'est pas la première de France, mais elle en a fait partie.
Ok. Peut-être qu'on peut rappeler quand est-ce que ça remonte la création de la Croix-Rouge ?
Ça remonte sur la bataille de Solferino, une bataille napoléonienne où un homme, Henri Dunant, a pris des gens avec lui pour aller soigner des blessés de guerre, des blessés de la vie. Et aujourd'hui, son mouvement continue à agir. Voilà, il a créé d'ailleurs la Croix-Rouge française. On a la chance d'avoir le créateur de la Croix-Rouge qui a créé la Croix-Rouge française.
Et peut-être petite anecdote de la Croix-Rouge, ça renvoyait du coup à ces hommes et ces femmes qui venaient en secours des gens pendant la guerre. C'est ça, on a gardé ce logo quoi.
Oui, c'est ça. En fait, c'est le logo du drapeau suisse inversé, comme il était suisse. Voilà.
Voilà pour l'anecdote. Donc, pour reparler un peu de ce que la présence de la Croix-Rouge en Lozère, aujourd'hui, ça représente quoi exactement, c'est-à-dire en termes de bénévoles et aussi d'antennes que vous avez ?
En termes de bénévoles, notre chiffre, il est constant, on n'a pas d'augmentation. On a une légère baisse, mais bon, c'est pas encore trop inquiétant. On est autour de 220 bénévoles sur le département pour 7 points, hein, avec 5 unités locales et 2 antennes, dont une qui a ouverte récemment à Marvejols. Voilà, donc...
C'est la septième, j'avais noté sixième.
Moi. C'est ça, c'est la septième parce qu'elle est rattachée à une unité locale. Après, c'est dans les statuts. Mais...
ok. Cette septième antenne Marvejol, à la fois la création d'une nouvelle antenne, c'est une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise pour la
C'est Croix-Rouge. Une bonne nouvelle dans le sens où on est là pour apporter notre aide et notre soutien dans un endroit où la Croix-Rouge n'était pas présente physiquement. Que de nom, hein, rattaché à une autre structure, celle de la Canourgue. C'est une mauvaise nouvelle, oui et non, hein, si on peut le dire, mais ça veut dire qu'il y a des gens dans le besoin. Malgré l'implantation d'autres associations sur le bassin de vie, on a quand même quelque chose d'autre à apporter, hein, sans bien sûr refaire les mêmes actions, c'est pas le but, mais d'accompagner, de proposer des actions qui ne sont pas faites pour permettre justement à ces bénéficiaires, hein, d'autres associations, de pouvoir faire autre chose, voir autre chose, et être accompagnés d'une autre façon qu'ils le sont déjà, qui sont très bien faits.
Donc vous le disiez, hein, ça répond à une hausse de besoins, de la demande, depuis notamment en cette rentrée, les associations caritatives, que ce soit la Croix-Rouge ou d'autres, ont fait savoir hein, qu'il y avait de plus en plus ces dernières années, de plus en plus de bénéficiaires qui augmentent, en tout cas leur nombre de bénéficiaires augmente. À la Croix-Rouge, donc les chiffres nationaux, au premier trimestre de 2023, il y a une augmentation de 7%. Et en 2022, sur l'ensemble de l'année, c'était déjà une hausse de 22% par rapport à 2021. Pour avoir un peu un comparatif avec la Lozère, comment ça se situe ?
On est dans malheureusement, on est dans la dynamique hein, qu'a annoncé le National. En Lozère, pour l'année 2022, c'est 15 000 repas servis. Ça fait en moyenne 450 personnes sur les départements par semaine, sans compter les étudiants. Parce que les étudiants, c'est 150 tous les 15 jours. On est dans cette dynamique-là. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin. Donc nous les accueillons sans problème, hein, vraiment, parce que le principe de la Croix-Rouge est d'aider dans un principe de neutralité. Donc toute personne qui passe la porte est servie. On ne laisse pas quelqu'un repartir sans avoir à manger ou en mourant de faim.
Parce que l'aide, le principal besoin auquel quand on fait appel à vous, c'est vraiment sur ça, sur le volet alimentaire ?
Non, c'est pas que sur le volet alimentaire, il y a le volet vestimentaire, mais surtout des fois les gens viennent chez nous juste pour parler, prendre un café, être écoutés, orientés, ils ont des problématiques que des fois nous à notre niveau on peut y répondre, donc on les oriente vers nos services à nous, sinon dès qu'on ne peut pas ou que ça dépasse nos compétences, on les envoie vers les services de l'État ou les autres associations qui sont compétentes dans le domaine.
Et est-ce qu'il y a des zones plutôt du département où vous diriez qu'il y a plus de besoins qu'ailleurs, des zones un peu plus reclus ?
Alors, les besoins, ils y sont partout. Hein, mais c'est vrai que dans les grandes villes, hein, comme Mende, comme Saint-Chély-d'Apcher, comme Marvejol ou la Canourgue, les besoins sont très présents. Après, on a des zones reculées, comme Eruéis, comme Florac, comme Langogne, qui sont des plus petites villes quand même. Les besoins, ils sont également présents. On y sert de l'aide alimentaire, sauf pour Florac. Mais les besoins sont quand même présents. On le sent bien, on a des remontées de chiffres qui sont quand même inquiétantes.
Toujours ces dernières années, on fait état qu'il y a des nouveaux profils de gens dans la précarité qui ne l'étaient pas avant, notamment les jeunes, hein, les étudiants dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. Là, cette année, le Secours catholique a fait remonter à son dernier rapport qu'il y avait aussi beaucoup plus de femmes seules. Est-ce que vous aussi, il y a des profils un peu que vous n'aviez pas vus avant et qui là font appel à vous ?
Oui, il y a des profils. Mais tout d'abord, les étudiants. C'est vrai qu'on mène une politique territorial au niveau de la Croix-Rouge en faveur des étudiants avec une aide alimentaire spéciale hein, dédiée tous les jeudis de quinzaine sur Mende pour commencer. Dans les autres unités locales, ça se met en place petit à petit. Il y en a pour qui c'est déjà en place. Mais à Mende, c'est vraiment une distribution sur un jour spécial, où à côté, on a des activités proposées en lien avec les étudiants, des cours de cuisine, des cours de soutien scolaire, des soutiens scolaires infirmiers dans le domaine des métiers de l'enseignement et tout le reste. Donc c'est vrai qu'on propose un panel qui est assez intéressant, même un soutien psychologique avec une association, l'Association des soutiens psychologiques des professionnels de santé, la SPS. Donc on essaye de travailler avec les acteurs locaux pour pouvoir répondre à ces étudiants. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, comme vous le disiez. Il y a aussi des personnes, des profils seuls, hein, des femmes, des hommes seuls. On a aussi des gens qui sont dans une catégorie sociale un peu plus élevée, qui passent la porte et qui viennent nous voir. Donc on voit vraiment que ces dernières années, mais même ces derniers mois, le profil change. On a toujours les gens qui étaient dans le besoin, dans la précarité, malgré qu'on essaye de faire des actions pour essayer de leur en sortir. C'est toujours très très difficile, mais on a de nouveaux profils, oui.
Et comment vous l'expliqueriez-vous ? Il n'y a que l'inflation ou il y a d'autres facteurs qu'on vous fait remonter ?
Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il y a la conjoncture actuelle hein, qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais surtout, il y a des gens qui ont des problèmes de la vie, qui tombent malades ou qui se séparent. Et malheureusement, ça en fait beaucoup, surtout dans cette période actuelle.
Et vous le disiez, hein, vous faites à la fois de l'aide alimentaire, mais c'est pas que ça, en fait. Quand on fait appel à vous, l'idée, vous, chez vous, ce n'est pas que de se limiter à donner à manger aux gens. C'est quand même, il y a une espèce de volonté de recréer du lien social, c'est ça, principalement.
En fait, l'aide alimentaire, c'est le prétexte, on va dire, entre parenthèses, pour venir chez nous, mais pas que chez nous, hein, dans les autres associations, mais c'est le prétexte pour après être orienté dans les services qu'on a en interne ou que d'autres associations peuvent faire. Pour vous donner un exemple, on a des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire, mais qui ont d'autres soucis, donc on les oriente sur la boutique, la vestiboutique, sur Mende ou sur les autres unités locales. Elles peuvent être habillées, elles peuvent être écoutées, elles peuvent se sentir être, elles peuvent être. Parce qu'on a des gens, des fois, qui viennent chez nous, ça nous est arrivé, qui n'avaient plus rien, qui ne se sentaient plus, qui ne se sentaient plus être vivant. Et c'est très dur d'entendre ces mots de ces personnes-ci. Donc on essaie de les accompagner, de faire un état des lieux avec eux. Et quand ils reviennent 4-5 mois après et nous dire « Aujourd'hui, je me sens quelqu'un et enfin une personne », d'un côté, ça fait un peu plaisir parce que malgré la conjoncture actuelle, nos actions sont quand même importantes. Et on voit que ça marche, pas pour tout le monde, mais on arrive, pour certaines personnes, à s'en sortir. Donc ça vaut le coup de continuer.
Bien sûr. À la rentrée, la Croix-Rouge, comme d'autres associations aussi, faisait état de leurs propres difficultés financières avec l'inflation, la hausse des charges, comme beaucoup d'autres entreprises ou sociétés ou associations ont connu également. Est-ce que c'est toujours le cas ou, comme on sait qu'il y a eu des aides, notamment de certains milliardaires en France qui ont pu faire des beaux gros chèques à certains. Est-ce que là, actuellement, la Croix-Rouge est toujours en difficulté ou pas?
Nous, sur notre niveau, au niveau départemental, on a toujours cette difficulté. Hein. Tout a augmenté. Le prix des loyers, le prix de l'essence, des carburants parce qu'on se déplace, le prix de l'électricité, le prix de l'eau. Enfin, la plupart de nos moyens, de nos fonds sont dédiés malheureusement à nos infrastructures. Donc on met plus de fonds dans nos infrastructures que de fonds dans ce qu'on aimerait faire dans notre cœur de métier. Donc c'est vrai que c'est un frein à nos activités, mais c'est pas pour autant qu'on arrête. Hein. Malheureusement, on continue nos activités, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. D'ailleurs, c'est pour ça que j'invite, si jamais il y a des entreprises, des personnes, des associations qui souhaitent faire des dons matériels au niveau de la Croix-Rouge, ces derniers peuvent recevoir un reçu fiscal et peuvent permettre à leur niveau de contribuer aux actions que nous menons sur le territoire.
Avec les dons défiscalisés.
C'est ça.
Peut-être qu'on peut rappeler comment vous fonctionnez, en fait, quelles sont vos ressources de sources de revenus?
Nos moyens de revenus, ils sont simples. Hein. La Croix-Rouge se base essentiellement sur des dons qui sont en baisse ces dernières années. Donc la situation actuelle ne va pas améliorer la situation. Donc on peut vous laisser imaginer la suite. Sinon, on vit également grâce à des subventions de la part du conseil départemental, des mairies. On fait des initiations au premier secours, des PSC1, des dispositifs révisionnels de secours qu'on facture. Donc ça nous permet, nous, derrière, de réinvestir dans nos actions. Mais c'est pas suffisant. À l'heure d'aujourd'hui, on aimerait pouvoir faire plus, mais on est limité.
Ouais, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, là, finalement. Hein, puisque les gens qui peuvent faire des dons, eux aussi, sont plus en difficulté pour faire des dons. Donc, c'est pas...
C'est pour ça qu'on essaye de se baser sur les entreprises, sur les magasins qui peuvent bénéficier du reçu fiscal de fin d'année. Donc, on espère vraiment que ça va marcher. On fait un travail dessus, d'ailleurs, pour informer les gens de ce qu'il est possible de faire, sans pour autant peut-être donner des 100 et des 1000, mais agir à notre niveau et au niveau local pour faire avancer la Croix-Rouge dans chaque unité locale.
Vous renouvelez aussi régulièrement l'appel aux bénévoles. Hein. C'est toujours, j'imagine, le cas. Vous cherchez tout le temps des bénévoles. Est-ce que ça marche, ça, ou c'est compliqué de plus en plus de trouver des bénévoles aujourd'hui?
C'est compliqué de trouver aujourd'hui des bénévoles et c'est compliqué de trouver des cadres bénévoles, des élus, dans les gouvernances territoriales et dans les gouvernances locales, qui souhaitent s'investir et qui souhaitent rester dans le temps. Parce que on met en place des actions, on a une gouvernance territoriale qui est déclinée en gouvernance locale, et dans ces gens, c'est des cadres, c'est des élus de la Croix-Rouge qui sont élus par les bénévoles, et on a de moins en moins de personnes qui veulent prendre des responsabilités au niveau associatif, et c'est vrai que ça nous met un petit frein dans nos activités, parce qu'on sait que dans 2 ans, il y a les prochaines élections, et on aimerait bien pouvoir les préparer pour que notre travail qui est mis aujourd'hui puisse continuer dans les années à venir. Donc on est en recherche de bénévoles avec différents profils, hein, des bénévoles qui souhaitent juste devenir bénévoles, des bénévoles peut-être qui vont souhaiter s'investir au plus long terme, prendre des fonctions dans les gouvernances locales et territoriales dans les mois à venir, dans les années à venir. On essaye de recruter dès maintenant pour voir l'avenir et pouvoir les former.
Pour s'assurer la pérennité des actions.
C'est ça.
Quels sont là actuellement les gens qui s'engagent auprès de vous? C'est plutôt des personnes à la retraite? Il y a quand même un peu des jeunes
Il y a des jeunes. on va pas se le cacher, on a des jeunes, on a des retraités, on a un peu de tout finalement. Bon, la catégorie qui est le plus représentée actuellement, c'est les retraités, les tout jeunes retraités, hein, qui veulent apporter leur aide, qui veulent apporter leur soutien, se sentir utile, hein, continuer à se sentir utile. Et puis, on a des jeunes, des gens qui sortent d'études, des étudiants qui sont bénéficiaires et qui viennent nous aider sur d'autres actions que celles où ils sont bénéficiaires parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais ce qui veut dire, ce qui nous rend un peu l'appareil en quelque sorte.
Et oui, parce qu'il y a ça, on peut à la fois bénéficier mais aussi s'engager par...
Par une autre voie, oui.
Par une autre voie. Je le disais en tout début de cet entretien que vous étiez le plus jeune président de la Croix-Rouge française de France.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire votre âge ou ça vous embête ?
Non, on peut le dire, c'est pas un défaut, j'ai 23 ans.
23 ans. Racontez-nous peut-être, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager auprès de la Croix-Rouge ?
Bon, ça remonte il y a un petit moment, c'était du côté de la Corse du Sud, d'Ajaccio, où la Croix-Rouge est venue faire une intervention dans le lycée où j'étudiais, et de fil en aiguille, ça m'a plu. Et je suis rentré à la Croix-Rouge à Ajaccio et je suis venu faire mes études à l'école d'infirmière de Mende. Et là où j'ai pris des responsabilités au niveau de la gouvernance territoriale et pour finir président de la délégation territoriale il y a un an à peu près, hein, à cette période-ci. Ce qu'il faut dire, c'est qu'être jeune et prendre des responsabilités, c'est possible. Mmh. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, ça prend du temps. Il faut savoir concilier sa vie de famille, sa vie de travail, sa vie personnelle, la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge prend quand même du temps quand on veut s'investir. Mais il faut y aller. J'invite les jeunes, hein, qui souhaitent s'investir dans la Croix-Rouge à y aller, parce que ce qui est intéressant, c'est l'intergénérationnalité. On travaille avec des gens qui ont de l'expérience de la vie. Nous, on a la fougue de la jeunesse. Des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent « Calmez-vous, là, vous allez trop vite pour nous ». Et c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut que ça se développe, il faut qu'on arrive à faire des actions qu'on ne faisait pas avant, tout en pérennisant celles qui sont en place. Donc les deux marchent bien. Mais ça prend du temps. Et le temps, de nos jours, c'est vrai que c'est difficile à l'avoir, mais je pense que quand on souhaite s'investir, on arrive à le trouver sans faire des concessions pour autant. Mmh.
Combien de temps à peu près vous vous y consacrez par semaine à la Croix-Rouge ?
Par semaine, je peux dire que c'est un second travail, hein, ça dépasse les 35 heures.
Et oui.
Donc on y passe un peu de temps, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas.
Ça vous enrichit, mais de manière humaine, on va dire.
Ça nous enrichit de manière humaine. Et puis surtout, ça nous permet de monter en compétences, d'avoir des postes à responsabilité qu'on n'aurait pas dans le travail par rapport à notre jeune âge, ce qui est normal, parce que quand on sort de l'école, on ne peut pas de suite avoir des postes à responsabilité. Donc ça permet d'acquérir de l'expérience de la vie. Et ça aide même de temps en temps, quand on postule quelque part, « Ah, ben, vous êtes président de la Croix-Rouge, vous savez faire des choses.
» Du fait que vous vous êtes engagé à votre jeune âge, on va le redire encore, ça veut dire que vous êtes optimiste quand même malgré là, ces dernières années, ces constats qu'on a l'impression que chaque année c'est de pire en pire, que la pauvreté gagne du terrain en France. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus ?
Le constat, il est vrai, hein, la pauvreté gagne de plus en plus l'espace, mais s'il n'y a plus personne qui agit pour essayer de réduire cette pauvreté, elle va continuer à augmenter. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau ? Bon, on essaye de la réduire. Ou peut-être pas de la réduire totalement, parce qu'on n'a pas de baguette magique, on n'a pas la solution magique pour faire ça, mais au moins permettre aux personnes précaires, en situation de précarité, de pouvoir se dire ben, « je suis dans le besoin, mais je ne suis pas seul ». Il y a des associations qui m'aident dans la bienveillance, dans l'écoute, c'est très très important, la Croix-Rouge a sept principes. Donc en adhérence à sept principes, on permet un accueil de qualité, entre parenthèses, hein, si je peux me permettre, des bénéficiaires que nous accueillons, et ça permet de briser la glace, parce qu'ils ne viennent pas, comme on le disait tout à l'heure, juste chercher un café, juste chercher un panier alimentaire, ils prennent un café, c'est des discussions avec les bénévoles dans les unités locales, et c'est une orientation derrière, donc c'est un ensemble.
Et toujours, votre point de vue à vous, est-ce que vous estimez que c'est le rôle des associations d'assurer un peu tout ça, à la fois de venir un peu dans l'urgence de l'aide alimentaire et en même temps de recréer du lien social. Est-ce que vous diriez que l'État se repose un peu sur ce rôle des associations ? Pas.
Non, nous, pour la Croix-Rouge, hein, je parle, ouais. Et à mon avis personnel, ouais. les associations ont un rôle important, d'autant plus que la Croix-Rouge est auxiliaire de l'État, reconnue d'utilité publique comme d'autres associations, mais quand même auxiliaire de l'État, c'est important de le rappeler. Le rôle des associations, il est clair, hein, c'est venir en appui à l'État. Et l'État vient en appui aux associations. Je pense que les deux travaillent ensemble. Et de mon point de vue, je ne pense pas que les services de l'État se reposent sur les associations. Au contraire, parce que quand on a une demande à faire, derrière, ça suit de suite, hein, que ce soit au niveau du conseil départemental, au niveau des mairies, au niveau de la préfecture. On a toujours une réponse et une solution. Et quand bien même il n'y a pas de réponse ou de solution, ils essayent quand même d'apporter autre chose pour essayer de nous venir en aide. Donc il y a un travail qui se fait, un travail de longue haleine qui se crée entre les institutions de l'État et les institutions comme les associations, comme les services privés. Donc on arrive quand même à avoir de bonnes relations.
Mmh. quelles seraient les solutions que vous verriez, vous, pour, si ce n'est totalement la faire disparaître, mais du moins la réduire, cette précarité ?
La faire connaître. Ouais. Déjà, il faut savoir s'informer et savoir qu'elle existe. Parce que ce n'est pas en la cachant, en se disant qu'on n'est pas dans le besoin, que ça va disparaître. Au contraire, ce qui serait important d'avoir, c'est des moyens financiers, c'est des moyens matériels beaucoup plus importants, des moyens humains, par le terme de bénévoles. Mais je pense que le fond du problème ne peut pas être traité à notre niveau. Hein. C'est vraiment au niveau national, au niveau de la France, hein, que ça doit être traité. C'est en cours d'ailleurs, avec les plans de relance. Donc
Il y en a eu un dernièrement. Voilà, désolé, j'ai pas tous les chiffres en tête.
Il y en a eu un dernièrement auquel on a participé, même mieux vivre, mieux manger, qui a été mis en place par l'État et mis en place au niveau départemental par le conseil départemental. D'ailleurs, ce week-end, il y avait des ateliers où la Croix-Rouge était présente dans la précarité alimentaire. Donc c'est important, je pense, de la faire connaître dans un premier temps, parce que c'est important de savoir que ça existe. Et pour la réduire, après, il faut en prendre conscience. Et qu'en prenant conscience, on va pouvoir réussir. Je dis réussir, c'est un grand mot, mais au moins réussir à la faire baisser un tout petit peu, parce que je ne pense pas qu'on puisse la faire disparaître au cours des décennies qui arrivent.
Dernière question un peu pratique, si on veut vous rejoindre, où est-ce qu'on peut se rendre et par quoi il faut passer ?
Si on veut nous rejoindre, il faut se rendre dans les unités locales. On peut le rappeler, il y en a une à Langogne, une à Florac, Mérueil, Saint-Chély, Marvejol, Lacanourgue, Mende. Voilà, je les ai toutes dites. Et la délégation territoriale. À Mende, la délégation territoriale, elle fait des actions de coordination et a le volet urgence et secourisme. Mais on cherche des bénévoles pour la délégation territoriale aussi, pour prendre des postes à responsabilité et pour pouvoir encadrer derrière les bénévoles des unités locales aussi. Donc c'est simple, pour nous rejoindre, il suffit de passer la porte.
C'est ça.
Ou de nous contacter sur les réseaux, à travers Facebook, à travers Instagram, ou sinon en tapant notre nom et adresse sur le Google, on tombera sur le site de la Croix-Rouge.
Très bien. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
C'était donc l'interview de Florian Casanova, président de la Croix-Rouge de Lozère. Alors, comme on a pu l'entendre, il nous le disait, qu'ils avaient du mal à recruter des bénévoles parce que de plus en plus de personnes avaient du mal à s'engager ces dernières années. Ce n'est pas le cas pour vous, vous nous l'avez dit, hein, au Secours Populaire. Est-ce qu'il y a quand même un profil type, Florian Casanova nous parle de jeunes retraités notamment, est-ce que chez vous c'est pareil ?
Oui.
Parce que s'engager dans une association qui développe la solidarité, c'est quelque part aussi faire un choix, et ce choix parfois peut être chronophage, parce que dès qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on finit par être happé tout entier. C'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est qu'on vient avec l'envie de donner quelques heures par semaine, et puis on se rend compte que finalement on peut donner plus et on donne plus. Il n'y a pas de typologie, hein, particulier de bénévole, n'importe qui peut venir. Les tâches aujourd'hui sont tellement diverses que chacun peut arriver à trouver finalement ce qui va peut-être le plus l'intéresser, ce qui correspondra peut-être le plus à ce qu'il recherche en termes d'investissement bénévole. Donc nous, on est très ouverts. Je dis pas que c'est la panacée. Aujourd'hui, on a toujours encore, et je n'ai de cesse que de lancer des appels aux bénévoles, parce que quand le nombre de personnes accueillies augmente, les besoins en bénévolat s'accroissent aussi de la même façon, puisque on voit bien pertinemment que c'est pas les moyens qui augmentent. Nous, on a une entre guillemets, notre ADN, c'est aussi de développer une solidarité populaire. Et cette solidarité populaire s'appuie aussi sur un grand nombre de donateurs, ce qui nous permet évidemment d'accroître nos ressources et de veiller à ce que finalement le Secours Populaire puisse rester indépendant. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, je dis pas que aujourd'hui on déborde d'argent, loin de là. On est dans la même situation que les autres associations, avec peut-être moins d'importance au niveau des besoins, parce que là, je vois qu'il y a des millions d'euros qui sont parfois revendiqués, y compris par les Restaurants du Cœur. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là, et on arrive pour l'instant, puisqu'on a eu notre congrès national ce week-end à Strasbourg, Voilà, la remontée des informations de toutes les fédérations font que on a une stabilité financière qui fait apparaître notre association comme étant assez rigoureuse en matière donc de gestion, et notamment parce que on a signé une charte qui s'appelle Don en confiance, et qu'à ce titre on a des comptes à rendre à nos donateurs. C'est-à-dire qu'on fait très attention à la façon dont on utilise leurs dons, qui parfois sont fléchés. Je le rappelais tout à l'heure, on développe nous un tas de solidarité et on fait des campagnes d'appel aux dons qui sont orientées sur ces autres solidarités. Pour les vacances, les gens ils peuvent nous donner, les dons sont fléchés, on va les utiliser pour faire partir des familles en vacances.
Savoir concrètement où va l'argent.
Donc voilà, pour nous, ça c'est une dimension importante.
Bien sûr.
Après, si on en revient à l'aide alimentaire, nous, comme je le disais, au même titre que la Croix-Rouge, les banques alimentaires et les restaurants du cœur, on bénéficie de cette dotation européenne. C'est le choix qu'a fait l'État français de mettre en place une forme d'aide alimentaire qui s'appuie sur une dotation européenne, qui fait que des appels d'offres sont lancés par un des satellites du ministère, en l'occurrence France Agrimaire. Appel d'offres européens. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés. Le dispositif a changé d'appellation. C'est dans le cas du FSE+.
FSE+. Vous voulez beaucoup en parler, j'entends. On va y venir très très vite, je vous le promets. Avant ça, je propose qu'on fasse une petite pause chronique avec Eric.
Oui, alors, comme l'a dit un célèbre philosophe, on ne choisit pas les rues de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part... Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et j'ai envie de rajouter pour celui qui est réincarné aussi. Après notre dernière émission, au cours de laquelle nous évoquions les apéros mortels, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Et la réincarnation me semble être un bon compromis à l'acceptation de la mort. Bon, après, il y a réincarnation, réincarnation. Déjà, si on peut se réincarner en tout ce qui est vivant, je pourrais aussi bien me réincarner en végétal qu'en animal. Tu te vois réincarné en platane, à vivre centenaire, au bord de la route, à regarder passer les bagnoles, te faire chier dessus par les pigeons, en attendant de te faire tronçonner, juste pour refaire l'avenue? Et si on y réfléchit, c'est pas forcément absurde cette histoire de réincarnation. Rien que quand on regarde les politiques qui s'y connaissaient aussi bien sur le sujet des punaises de lit, ils doivent bien avoir au moins un membre de leur famille ou un ami qui serait réincarné en ce petit fléau. Non, vous croyez pas? Et toi, Clara, tu penses que tu pourrais être incarnée en quoi?
Oula, alors là, aucune idée. En fleur, tiens.
En fleur. Ça, je m'en doutais. Bon, parlons plutôt de moi, alors. Parce que si je devais être réincarnée en animal, par exemple, moi, franchement, ce serait le paresseux. Ça me correspond bien, le paresseux. Ou tiens, en ours. Ouais, c'est bien ça, en ours. Franchement, tu croises un ours dans la rue, tu ne fais pas trop le malin. Ça force le respect, un ours. Et si c'est en homme, ce serait en basketteur américain. Ou grand journaliste. Pas de radio, hein. J'ai dit grand journaliste, voire écrivain, plutôt que poète maudit des bas quartiers. Mais le problème, c'est que pour celui qui est réincarné, c'est toujours un hasard. Ou sinon, je serais peut-être une femme dans une vieille future, harcelée, battue, abusée, juste parce que femme, ou russe, opposant politique, empoisonnée en prison, afghan, ou pire, afghane, exécutée sans jugement sur une place publique, gazaoui, condamnée pour simplement avoir crié « Palestine libre ». Israélite, égorgé devant ma famille. Alors, j'ai souvent l'impression étrange que Dieu fait subir à ses enfants beaucoup plus que nous pourrions supporter pour être heureux malgré tout. Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Mais franchement, cela se saurait si Dieu avait quelque chose à voir là-dedans, et s'il pouvait améliorer les choses. C'est un peu comme d'attendre ma prochaine réincarnation pour entrer en action, ou d'attendre que Jupiter offre un toit pour tous, ou sa fameuse grande cause féminine comme il l'a promis. Ah si, tout ça il pourrait, si les punaises de lit n'étaient pas une priorité. Allez, faisons en sorte que l'esprit du colibri, au moins, soit réincarné. Que chacun fasse sa part, comme nos invités. À nous de nous serrer les coudes, donner un peu de temps pour pouvoir ne serait-ce qu'un peu faire bouger les choses. Tenter d'aider, suivant nos sensibilités. On ne sait pas si demain, ce n'est pas nous qui aurons besoin d'être aidés. Dieu ne peut pas porter tous les malheurs du monde. Nous ne le pouvons pas non plus. Mais nous pouvons retrouver notre part d'humanité, dans cette vie ou celle d'après.
Merci beaucoup, Eric. On va parler maintenant, donc, comment fonctionne, auprès de qui vous fournissez les principales associations qui participent à l'aide alimentaire. Donc ce programme européen qui aujourd'hui a pour nom FSE+, donc c'est anciennement, il faut que je retrouve...
Oui, c'est le Service Européen d'Aide Alimentaire, ça s'appelle le SEAA. Voilà. Avant, c'était le FEAD. Voilà. Maintenant, ça s'appelle le SEAA, puisqu'on est dans le cadre du nouveau dispositif européen qui est prorogé jusqu'en 2027. Donc, pour l'instant, on a des garanties jusqu'à 2027. C'est, pour les associations, un petit peu plus facilitant, parce qu'on n'a pas chaque année à redemander, à refaire des demandes de financement, répondre à des appels à projets. Là, on sait que l'Europe s'engage sur 7 ans. Et que sur 7 ans, les crédits vont être versés à l'État français.
Voilà. Et en fait, ça fonctionne sur un système de redistribution du surplus de la production agricole.
Avant, c'était ça. À la base. Avant, c'était ça. C'était à l'époque où, effectivement, Coluche avait demandé l'ouverture des frigos européens pour pouvoir évacuer le surplus. Aujourd'hui, non. C'est plus du tout ça.
C'est devenu un marché maintenant.
C'est devenu un marché. Mmh. Ça a été intégré par les industries agroalimentaires et elles le fabriquent souvent exprès pour répondre donc à ces appels d'offres qui sont des appels d'offres européens. Voilà. C'est-à-dire que les denrées peuvent venir de toute l'Europe.
Donc il y a ce fonds, c'est un peu la plus grosse échelle, on va dire, et après jusqu'à la fin où il y a donc les particuliers qui peuvent même faire des dons. Oui. Est-ce que, et au milieu, les grandes surfaces. Est-ce que vous avez, vous, en Lozère, une idée de la proportion de ce qui est récupéré auprès d'un particulier et ce qui est récupéré, je sais pas moi, directement auprès des grandes surfaces? Vous avez des proportions de ça?
Non, on fait très peu de ramasse. En fait, ce qui nous gêne de plus en plus, c'est que les supermarchés, bien entendu, sont pas des philanthropes, hein, et ils ont trouvé une solution, c'est que ils proposent de plus en plus un rayon à bas prix, où on arrive là enfin date de péremption. Ouais. Et voilà, ça permet effectivement d'éviter le gaspillage alimentaire. Et comme le rappelait tout à l'heure l'épicerie solidaire, il faut vraiment faire attention à ce que l'on récolte, parce que souvent il faut trier ou il faut s'en débarrasser. Quoi. Autrement dit, on nous demande à nous de
faire du taf en plus,
jeter.
Finalement. Et de jeter. Voilà, en fait, c'est vous qui jetez à la fin et eux sont dédouanés de ça. Et la loi Garot, hein,
c'est la loi Garot
qui a introduit pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Contre le gaspillage alimentaire, ouais. Tout à fait, et qui a imposé au supermarché donc, de passer par une association. Mais en même temps, ils ont trouvé d'autres solutions. Il y a des petites entreprises qui se sont insérées entre le supermarché et l'association et qui vont, eux, s'occuper de préparer la ramasse pour les associations. On n'a plus, nous, on a de moins en moins de contacts directs avec le supermarché. Il faut quand même savoir qu'en étant, nous, déclarés d'utilité publique, bien entendu, chaque don peut être défiscalisé. Et ça veut dire que lorsqu'une entreprise, un supermarché nous fait un don, c'est bien entendu à nous de leur transmettre le reçu fiscal qui va leur permettre de récupérer 60% du montant qui nous a été octroyé. Donc
pour vous, ça suffit pas, ça n'a pas de sens presque ce type
de dispositif. Disons que ça devient de plus en plus aléatoire. En fait, et le retour que l'on a, y compris des autres départements, c'est que c'est un peu le même phénomène, quoi. Ça se réduit, et ça ne nous permet plus de compléter l'aide alimentaire européenne. Ouais. Nous, on a fait un autre choix fait qu'on se dit que l'aide alimentaire européenne, c'est à peu près entre 27 et 30 références. Autrement dit, on complète de plus en plus, parce que ce qui nous est octroyé par l'Europe, ce sont des produits secs. Donc boîtes de conserve, produits de base, huile, café, et des produits surgelés. Mais on n'a pas de produits frais.
Voilà, c'est pas de l'alimentation de qualité, quoi. Donc l'insécurité alimentaire se traduit par de la mauvaise qualité alimentaire. Quoi.
Oui, tout à fait, puisque c'est de l'agro-industrie. Voilà, ça. Alors au niveau organoleptique, il y a pas de problème, hein, puisqu'on surveille nous régulièrement et qu'on est tenu dans le cadre de la convention que l'on signe avec Agrimer de faire des tests gustatifs. Mais effectivement, ça ne règle pas le problème du bien manger. Et nous, on a pu bénéficier, parce qu'on l'a fait, d'une aide là qui va nous permettre de mettre en place un groupement d'achat de produits frais à dimension départementale. en s'associant avec la Croix-Rouge et les autres associations, de façon à avoir une massification des produits qui nous permettra peut-être d'avoir des prix bien plus intéressants. J'en veux pour preuve que depuis 3 ans maintenant, on a ouvert, nous, un libre service de produits frais sur Langogne, qui vient compléter ce que les autres associations distribuent. C'était un peu, lorsqu'on s'est installé, cette volonté de travailler avec les autres associations et de voir comment, finalement, puisque nous, on arrivait sur ce territoire, comment compléter ce que les autres faisaient. Mmh. Et on a trouvé là cette solution qui permet, là, à presque 300 familles de venir récupérer quelques kilos de légumes, de fruits.
Et ça veut dire que vous fournissez auprès directement des producteurs locaux,
certaines,
c'est ça?
Oui, ouais. Oui. Oui ça... mais ça devient très compliqué pour les bénévoles de se retrouver en situation de commerciaux pour aller négocier avec les producteurs locaux, de répertorier, d'aller récupérer les produits, de travailler sur des quantités qui correspondent aux besoins. Il faut après mettre en place la logistique, donc c'est très compliqué. Et c'est pour ces raisons qu'on a, nous, répondu à un appel à projet, là, sur le dispositif Mieux manger pour tous que l'État a mis en place, et ce qui va nous permettre, peut-être, d'avoir de l'ingénierie au service, là, de la mise en place de ce groupement d'achat, pour nous permettre d'avoir une relation. Alors, l'idée, c'est d'avoir une relation un peu soutenue avec les producteurs, de voir avec eux ce qu'ils peuvent produire et jusqu'où ils peuvent aller en termes de production. Et puis aussi de travailler avec les personnes que l'on accueille pour, bien entendu, coller beaucoup plus aux besoins.
Est-ce qu'à vos yeux, l'État, il s'est un peu trop désengagé de cette lutte contre la précarité de manière générale, dont l'aide alimentaire fait partie? Ou est-ce que ces types de plans qu'il met en place, ce que vous venez, dont vous venez de parler, ou encore le dernier... fonds d'urgence qu'il vient de débloquer, 60 millions d'euros. Est-ce que ces mesures-là suffisent ou c'est que des...
Non, c'est toujours insuffisant. Oui. On le voit bien aujourd'hui avec les difficultés qu'encourent les associations pour subvenir aux besoins qui sont exprimés par les personnes que l'on accueille. C'est pour ces raisons qu'on appuie, nous, notre travail quotidien sur... sur la nécessité, parce que chaque bénévole, il est aussi collecteur. Donc il y a cette nécessité d'organiser des initiatives, d'aller effectivement accroître les ressources de notre association pour pouvoir mieux répondre aux besoins qui sont exprimés. On sent bien qu'il y a effectivement, encore une fois, la nécessité. Et c'est pour ces raisons que nous, on se considère comme aiguillon des pouvoirs publics, en leur rappelant régulièrement, leur redonnant des infos sur là où on en est, pour qu'ils puissent prendre conscience et petit à petit donner des moyens qui soient beaucoup plus importants pour lutter contre la pauvreté en France.
Dans l'interview qu'on a écoutée, Florian Casanova disait que l'un des moyens de, si ce n'est éradiquer totalement la pauvreté, à savoir si ça c'est possible, du moins en parler plus, est-ce que vous seriez d'accord, vous? On n'en parle toujours pas suffisamment?
C'est toujours pareil. Il nous appartient à nous, effectivement, association de solidarité, d'en parler. Mais après, effectivement, la prudence est de mise, quoi. Parce que l'idée, c'est pas d'aller stigmatiser les gens qui sont pauvres, mais c'est de créer des conditions pour que, petit à petit, chacun prenne conscience du rôle qu'il peut jouer en matière de solidarité, d'aller vers les autres, de faire un don au Secours populaire, par exemple. Il n'y a pas de petit don. Ça peut être 10 euros par mois, mais pour nous, c'est important parce que ça vient se rajouter aux autres dons qui nous sont faits par des privés. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ces raisons que nous, on a de cesse que de communiquer et puis d'interpeller, entre guillemets, le peuple, quoi, parce qu'il a un rôle important à jouer aujourd'hui. Comme je le rappelais, nous, on agit vraiment que sur les conséquences. Sauf que de temps en temps, on aime bien rappeler aux pouvoirs publics le rôle qu'ils ont à jouer. Mais on ne va pas faire à leur place.
C'est ça.
Chacun reste à sa place. Nous, on n'est pas des politiques, même si on a une analyse de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et de cette nécessité de voir comment on peut aussi faire améliorer les dispositifs qui existent. Et notamment le SEA+, là, on va certainement, nous, intervenir pour que les choses évoluent. Il y a de plus en plus de lots infructueux. Savoir que, évidemment, comme on a face à nous des industries de l'agro-industrie, ils vont...
tirer leur profit les choses, quoi.
Oui, oui. C'est ça. Comme c'est ça, mais comme les matières premières ont augmenté, évidemment, eux, ils ont augmenté leur prix. Mmh. Sauf qu'ils sont au-dessus. Comme c'est des marchés publics, ils sont au-dessus du seuil. Donc les lots sont déclarés infructueux. Donc France Agrimaire relance les appels d'offres. Et pendant ce temps, nous, on a de moins en moins de choses à distribuer. Donc ça devient effectivement catastrophique. Puisque c'est le seul moyen d'approvisionner tous les centres qui distribuent l'aide alimentaire en France. C'est le seul moyen que l'on ait aujourd'hui.
C'est le principal distributeur à ce jour.
Tout à fait.
Eric.
Alors moi j'avais presque deux questions. Finalement, ce qu'il y a, c'est qu'il commence. Enfin, il y a quand même beaucoup d'associations, enfin beaucoup, il y en a plusieurs. Comment on fait pour s'y reconnaître? Est-ce que vous ne marchez pas sur les pieds les uns des autres, entre guillemets? Pourquoi autant d'associations finalement? Et est-ce qu'il ne manque pas une ou deux figures publiques pour faire avancer les choses, comme on a pu le voir, là, il y a un film qui est sorti sur l'abbé Pierre, donc forcément, on en reparle, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément grand monde qui en parlait. Le fait qu'il y ait un personnage public comme ça, qui sorte du lot, ça a permis de faire avancer un peu les choses. Est-ce que finalement, d'être aussi nombreux, aussi éparpillés, ça freine pas?
Non, parce que on se retrouve souvent sur la même longueur d'onde et on se retrouve souvent à se rassembler pour intervenir. Il n'y a pas de dispersion. Je trouve que plus on est à intervenir et plus on fait prendre conscience aux citoyens qu'il a un rôle à jouer. Donc c'est au contraire multiplier les possibilités d'intervention. Il n'y a pas de concurrence, on se voit régulièrement avec les autres associations et puis on échange et on voit bien par exemple à Mende, il y a une répartition des temps de distribution entre les associations qui sont installées à Mende, on le fait à Saint-Chély. Donc non, moi je crois qu'il n'y a, a pas à interpeller sur le grand nombre d'associations qui interviennent aujourd'hui. Au contraire, après les gens sont libres, nous on explique à ceux que l'on accueille ce qu'est le Secours Populaire et ce qu'il peut leur apporter en termes d'accompagnement. Après ils sont libres, pourquoi pas d'aller voir les autres associations. Enfin bon voilà, c'est pour ça, chacune finalement a aussi quelque part ses valeurs fondamentales qu'elle essaye de transmettre aux personnes qui sont accueillies. Nous, notre valeur fondamentale, c'est tu peux quelque part aussi, quand tu es accueilli, rendre une partie de la solidarité qu'on te donne en venant donner un coup de main, en rejoignant les équipes de bénévoles. Et on demande aussi une participation qui est une participation à la solidarité, c'est-à-dire que rien n'est gratuit. Et on veille à ce que, évidemment, chaque personne qui vient nous voir ne perde pas sa dignité aussi. Parce que c'est ça qui est important, comment on fait que cette personne, elle reste un citoyen à part entière. Voilà, donc c'est pour ça, moi je dis que chaque association a sa façon d'intervenir. Elle peut être différente d'une association à l'autre, mais voilà, chacun a sa place quoi, dans un dispositif qui est de plus en plus large. Hein.
On arrive à la fin. Béranger, je t'ai pas oublié, hein, tu vas clôturer cette émission incessamment sous peu, pas tout de suite encore.
Ça marche.
Je propose que vous nous réexpliquiez un peu. Est-ce que l'initiative dont vous parliez, c'est avec les jardins de Cocagne ou c'est encore autre chose? Voilà.
Non. Donc, oui. Nous j'allais y venir.
Ok, donc bah, je vous laisse.
Oui, non, mais tout à fait. Non, c'est là, c'est une façon réellement de rassembler les associations. Comme je le disais, on essaye effectivement ensemble de trouver des solutions pour pallier à des problématiques qui nous concerne, qui concerne toutes les associations. Et là, en l'occurrence, c'était de se dire, on a des producteurs locaux dans le département, mais comment on peut aussi, finalement, leur apporter une contribution financière complémentaire en réinjectant dans le panel de produits que l'on distribue des produits locaux, quoi, sains et durables. Voilà, c'est en cela que... puis nous, on est partenaire des jardins de cocaïne depuis des années, en fait. On a une convention avec les jardins, et puis bon, ils nous fournissent des paniers solidaires. Ils travaillent sur des publics que l'on connaît bien aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous de les avoir associés à ce projet, au même titre que la Croix-Rouge. Enfin, après, voilà, il y a des syndicats agricoles que l'on a contactés. Donc voilà, ensemble, on va essayer de ben pourquoi pas aussi d'imaginer localement une nouvelle solidarité alimentaire.
Eric, dernière question.
Juste pour nous rappeler ce que sont les jardins de cocagne.
Ah oui, c'est une association qui fait de l'insertion par le jardinage, en fait. Et qui, d'ailleurs, a pas mal de réussite, hein, parce que c'est un chantier d'insertion. Donc, c'est des gens qui sont parfois un peu éloignés de l'emploi. Et qui, là, vont retrouver finalement un rapport à l'emploi en se levant le matin, en allant au boulot. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un palier. Et une fois que les gens ont franchi ce palier, et les jardins, ils ont des chiffres qui l'attestent, ben les gens, ils arrivent à trouver un boulot, quoi. Voilà, ils sortent des jardins, hop, ils ont un boulot. Donc c'est ça qui est aussi important.
Ils sont où ?
Ils sont à Payers, au-dessus de Marvejols, quoi. Voilà.
Donc ça, courant année prochaine, on peut envisager la mise en place concrète de...
Oui, on va y travailler, là. Puisqu'on a, ça y est, on a eu la dotation de l'État, donc on va lancer le projet.
Le projet. Et ben, on ne manquera pas de suivre ça.
Oui.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Kircher. Et on va écouter Béranger pour clôturer tout ça. Béranger qui, apparemment, donc, a eu un sale coup de...
Ouais, de vieux, ça va pas fort. Honnêtement, ça va pas. Bah, j'ai pris un putain de coup de vieux, je vous dis, les amis. Bon, non pas qu'un vieux m'ait mis un coup de canne et transmis comme par magie sa vieillesse. Non, la vieillesse n'est pas une maladie, un naufrage à la limite. Finalement, il y a Cariel Dombal qui dit non à la débâcle. En fait, moi, depuis que je suis papa, bah, je passe mon temps dans les pharmacies. C'est devenu mon repère, mon troquet à moi, avec bien sûr l'alcool en moins. Ma fille a le hockey, même si son père trinque beaucoup moins. Je vais vous raconter une histoire de vieux. Dans cette pharmacie, assis sur une chaise, une vieille dame, élégante qui, malgré le poids des années, gardait cette coquetterie satinée. À ses côtés, son mari, debout, prévenant, attentionné. Il patientait pour se faire vacciner tout près de l'étal des préservatifs et lubrifiants goût citronné. Ben, si je vous le dis, c'est que la pharmacie l'a fait. Vous me direz, oh, c'est une salle d'attente comme une autre. Ok, on est tous le fruit d'un autre. La dame dit à son mari, c'était pas la fille machin devant nous ? Elle a maigri, non ? Son mari lui répond, bah non, elle est restée à l'identique. En fait, cette histoire, elle m'a rappelé un tas d'autres histoires. Je suis sûr que Clara, Eric, Jean-Pierre, vous avez connu une histoire comme celle-là. Vous savez, quand vous rencontrez une ancienne connaissance, perdue de vue depuis des années, merci la cécité, mais au détour du rayon fruits du supermarché, au hasard d'un comptoir, au détour d'une salle d'attente, au laboratoire, même avec votre analyse d'urine, et même dans un club échangiste, pardon. À ta plus grande joie, tu crois cette personne et tu te dis « Oh non, putain, pas elle, pas lui ». Ben moi, ça m'est arrivé dimanche matin au bureau de tabac. Je suis pas lavé, j'ai dû les cahiers sur l'épaule, jogging taché depuis trop de jours, gueule mâchée depuis le 15 août, c'est la naissance de ma fille, et une haleine de fruits pourris. Je rentre dans le tabac et je suis comme dans la série Bref. Je sais pas si vous connaissez. Il me voit, je le vois, on se voit, je fais semblant de pas l'avoir vu. Il voit que je feinte de l'avoir vu, même la nana du tabac nous a vus. Horrible, putain, tout le monde voit qu'on joue à pas se voir. Il s'avance, il arrive. Salut Béranger, je t'avais pas reconnu. T'as vachement changé, dis donc. Je me dis, putain, ça commence fort. Tu l'auras voulu, je te fais la bise. Et tu verras, j'ai changé d'odeur, mon pote. Puis j'ai droit au traditionnel. Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu deviens ? Et là, c'est parti, c'est l'interrogatoire. Face à moi, j'ai un huissier qui épluche mon parcours de vie. Examine ma silhouette, des pieds, au lait caillé. Allez, c'est parti, je dépose le bilan de 10 années de vie dans une logorée, putain, qui me file la nausée. Et je vois, ben, ce que je suis devenu l'intéresse pas, c'est ce que j'étais qui lui plaît. Le connu le rassure, l'inconnu l'inquiète. Putain, il me ramène sans arrêt au passé. Je suis comme une étiquette sur une sable dégriffée, putain. Le problème de taille, ben, c'est que je suis plus le même.
Plus gros, plus maigre à ta convenance, plus pressé, vas-y, dépêche, je perds patience. Moins moche, prends tes clopes, allez, avance. Et on s'est quitté comme on s'était revu, sans goût ni sentiment. Mais depuis ce dimanche matin, avec machin, je voulais lui adresser un message. Merci mon pote, grâce à toi j'ai arrêté de fumer. Et n'oubliez pas, on est tous le machin d'un autre.
Et ben voilà, voilà qui clôture bien cette émission.
Merci.
Merci beaucoup Béranger. Encore merci à vous, vous êtes en train de vous étouffer Jean-Pierre Kircher. Je vais vous donner l'eau à la suite de cette émission. À très bientôt, merci beaucoup Eric, à toi aussi.
À bientôt.
Et à bientôt merci. Sur 48 FM. Merci Béranger.
Merci, à bientôt.